Donc on a un ordre du jour assez fourni avec essentiellement le budget primitif 2018 qui nous sera présenté tout à l'heure par Hervé Bayard. Simplement quelques informations préalables. À la suite de la démission de Julien Antunes de son mandat de conseiller municipal de Mont-de-Marsan et de conseiller communautaire, il y a lieu d'installer son remplaçant. Donc au vu de l'ordre de la liste Mont-de-Marsan Bleu Marine et du refus de siéger des 2e, 3e et 4e de liste, c'est donc Michael Olnet, 5e de liste, qui exerce le mandat de conseiller communautaire en lieu et place de Julien Antunes. Donc je voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue dans le cadre républicain de cette Assemblée. Et puis appeler de mes voeux des échanges respectueux et républicains. Vous êtes ici un élu du peuple et à ce titre, vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous autres. En même temps, souhaiter la bienvenue, même si on le connaît, et féliciter surtout Jean-Pierre Allais, élu maire de La Glorieuse le 12 novembre dernier, je crois. Donc bravo à toi et bonne chance pour l'exercice de tes missions, avec tous nos encouragements pour le nouveau conseil municipal. Et puis je formule ici en même temps un salut amical à Gérard Apestegui, qui avait souhaité quitter ses fonctions de maire au terme de 22 années passées au service de cette commune, qu'il a marqué de son empreinte. Donc j'ai une pensée, nous avons tous ici, une pensée amicale pour lui. Donc avant de rentrer aussi dans l'ordre du jour, j'en profite pour remercier bien entendu les services pour la préparation de ce conseil et de vous présenter ici, mais sommairement, le nouveau directeur de cabinet Ville et Agglo qui est derrière moi, Christophe Brun. Vous aviez une information courrier, vous aurez l'occasion, il aura l'occasion de prendre des contacts avec vous individuellement. Ça a déjà commencé, je crois, et puis vous aurez l'occasion aussi de le croiser tout à l'heure sur le verre de l'amitié. Donc il a commencé officiellement le 1er décembre 2017. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Dernière petite chose, à la fin de cette réunion, de cette assemblée, vous ne partez pas pour les plus pressés, parce qu'il y a la communication nous a demandé que vous restiez là pour qu'on fasse une petite prise de vue, clip ou photo pour les vœux de fin d'année de l'agglo. Voilà, qu'on va faire un petit peu de façon numérique et un peu innovante. Donc ne partez pas, même pour les plus pressés, ça ne durera pas longtemps. Première chose de ce conseil communautaire, donc l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 novembre 2017 que vous avez sous les yeux. Est-ce que tout a été retranscrit conformément ? Y a-t-il des remarques avant d'adopter ce PV ? Pas de remarques particulières ? Donc c'est le PV, donc je vous propose de le soumettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Vous avez également dû prendre connaissance du compte-rendu des décisions prises par le président dans le cadre de mes délégations d'attribution. Donc là également, est-ce qu'il y a des... Là, c'est donc pour information. Est-ce qu'il y a des avis ou des remarques particulières ? Pierre Mallet.
Oui, merci. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi Benquet n'est plus dans le groupement de commandes pour la fourniture de papier ? Parce que je l'ai appris aujourd'hui. Merci.
Moi, j'ai pas de. Alors, j'avoue que si c'est une erreur, on l'a.
Oui, t'as rectifié, oui, parce qu'on y est depuis le début au groupement de commandes. On souhaite continuer, à moins qu'on n'y ait plus de place. Merci.
Oui, donc on va rectifier, mais on me dit que la commune n'aurait pas répondu à la sollicitation qu'on a faite au mois de septembre, d'après nos services.
Je peux vous répondre, parce que je l'ai vérifié cet après-midi, et la commune n'a jamais reçu le mail. Voilà, puisque j'ai fait téléphoner ma secrétaire, et elle est peut-être passée en spam ou autre, mais enfin, on n'a jamais reçu le mail. Voilà. Mais enfin, on y était depuis le début, donc si on avait arrêté, on aurait sûrement justifié.
Ouais. Bon. En tout cas, c'est parti, mais manifestement, c'est pas arrivé, donc on rectifiera cet aspect-là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce PV ? Pas de remarques ? Ok, merci. Donc je vous propose de passer à la délibération numéro 1. Là, c'est une délibération qui va nous être présentée par Véronique Glaise. Il s'agit de l'élaboration du plan climat, air, énergie territoriale. On est dans une phase de diagnostic. Donc je laisse la parole à Véronique Glaise.
Merci, Monsieur le Président. La transition énergétique dans les territoires, encadrée depuis 2010 par la loi Grenelle 2, a été précisé par la loi donc du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le décret du 28 juin 2016 relatif au plan climat, air, énergie territoriale précise ce que doit contenir le dit plan. Donc le diagnostic portera sur une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et une analyse de leurs possibilités de réduction, une estimation des émissions territoriales de polluants atmosphériques et une analyse de leurs possibilités de réduction, une estimation de la séquestration nette du CO2 et de ses possibilités de développement, une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et de son potentiel de réduction, la présentation des réseaux de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, les enjeux de la distribution d'énergie sur le territoire et une analyse des options de développement de ces réseaux, un état de la production des énergies non renouvelables et une estimation du potentiel de développement de celles-ci, ainsi qu'une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. Donc, sur le territoire communautaire, le diagnostic engagé dès 2017 via la compilation des données existantes auprès des acteurs du territoire sera poursuivi en 2018 avec l'intervention d'un bureau d'études en charge de la rédaction de cette partie sur la base des éléments recueillis, celui-ci étant chargé d'accompagner la communauté d'agglomération dans l'élaboration de son PCAET et en parallèle la formulation de la stratégie communautaire en matière de transition énergétique permettra d'alimenter le programme d'action du futur plan climat énergie territoriale. Voilà, Monsieur le Président.
Merci, Véronique. Donc, il s'agit en fait de c'est aussi une obligation pour les intercos de plus de 20 000 habitants. Là, on sera dans la phase de diagnostic et ensuite une stratégie, un plan d'action et l'évaluation de ce plan d'action. Peut-être pour rajouter quand même que nous n'avons pas attendu cette phase-là pour faire un certain nombre de mesures, que ce soit d'économie d'énergie sur l'eau, je pense à des réducteurs de débit sur le chauffage, le remplacement des chaudières vétustes. En matière d'économie d'énergie aussi avec, je prends des exemples comme la politique automatique de mise en veille des écrans d'ordinateur, l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques. Sur l'éclairage public également, avec des mesures qui sont soit sur la consommation, avec des amplitudes, des extinctions d'éclairage public dans les quartiers pavillonnaires entre 23h30 et 6h, ou bien entendu un plan de modernisation de tous ces luminaires. Donc ça correspond, voilà, on a déjà démarré des choses, mais là on va formaliser ça par le biais de ce plan. Et donc il s'agissait là de lancer la phase de diagnostic, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ou des remarques? Est-ce qu'il y a des points que vous voudriez aborder? Donc je propose de le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc c'est voté à l'unanimité. La délibération suivante que je vais vous présenter concerne le pôle finance et affaires juridiques. Il s'agit, dans le cadre de l'information que je vous ai donnée tout à l'heure et des modifications sur un nouveau venu en matière de commission, donc suite à la démission de Julien Thunès, donc il y avait lieu de remplacer ce candidat dans différentes commissions. Et ainsi, il est proposé les modifications suivantes dans le respect du principe de représentation proportionnelle. Donc, en remplacement de Julien Antunès, et après l'avoir consulté, Michael Holnet donc, est candidat sur la commission voirie, sur la commission finance et la commission cohésion sociale. Donc, je tiens à signaler que ça rentre dans le cadre d'une représentation qui répond à des règles de proportionnalité. Donc, ça doit être, bien entendu, quelqu'un de cette liste-là qui remplace le Julien Antunès. Donc, ici, il s'agit simplement alors d'un vote, même si... s'il n'y a qu'une seule candidature ou s'il n'y a qu'une seule liste représentée, c'est une nomination immédiate sans vote. Hein. C'est simplement une information. Voilà. La délibération numéro 3, donc là on est dans le même ordre d'idées. Il s'agit de notre représentation sur l'établissement public foncier local, Land Foncier. Là il s'agit plutôt de... c'est suite à la démission donc toujours de Julien Thunès. L'Assemblée délibérante peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret. En l'espèce, il est proposé que le vote ait lieu à main levée. Donc je vous demande s'il n'y a pas d'opposition à ce qu'on propose un vote à main levée sur cette délibération. Et là, M. Holnet n'ayant pas souhaité, je crois, sauf erreur de ma part, se présenter sur le PFL. Et moi, je souhaitais vous proposer la candidature de Chantal Davidson sur cette partie-là. À moins qu'il y ait d'autres candidatures. C'est donc représentant sur le PFL, sachant que sur le PFL, donc, on peut voter à main levée, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours dans la continuité, la délibération numéro 4, Là, il s'agit de modifier un représentant au sein du syndicat du Midou et de la Douze, suite au souhait exprimé par Christian Senet de ne plus siéger dans ce syndicat. Nous avons déjà comme représentants Bernard Kruzinski, Claude Coumade, Véronique Glaise, Gilles Garabos, Jean-Michel Daraba, Jacques Labarchède et Sylvie Sens. Et donc la candidature qui a été proposée d'ailleurs par Christian Senet est M. Reynaud. Donc il vous est proposé de voter. Et là aussi, je vous propose de voter si vous à main levée. Donc qui est contre cette... À moins qu'il y ait d'autres candidatures. Donc qui est contre. Qui s'abstient. Je vous remercie. Je vais laisser maintenant la parole à Bertrand Tortigue au sujet de la délibération numéro 5 et qui concerne les dérogations au repos dominical, puisqu'il y a un volet sur ces dérogations qui concerne les mairies respectives, Saint-Pierre-du-Mont notamment et Mont-de-Marsan. Et puis, il y a bien entendu une délibération qui doit se faire en conseil communautaire. Bertrand Tortigue.
Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est effectivement suite à la loi, ce qu'on a appelé la loi Macron du 6 août 2015, où cette loi permet donc d'accorder des dérogations au commerce de détail, à ouvrir un certain nombre de jours le dimanche, entre 5 jours minimum et 12 jours maximum. Et la commune de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont, lors de son dernier conseil municipal, a délibéré et a autorisé une ouverture de 8 dimanches. Je tiens à préciser que c'est, quand on dit 8 dimanches, c'est jours fériés inclus. C'est-à-dire qu'ils peuvent ouvrir dans la limite de 3, sauf le 1er mai, 3 jours fériés. Mais s'ils les utilisent ces jours fériés, ils seront déduits de ces 8 dimanches. Donc c'est 8 dimanches, jours inclus compris. Et comme c'est au-delà de 5 et tel que le stipule la loi, donc il est dans l'obligation de demander un avis à l'EPCI du Marsan pour confirmer et permettre au président, au maire des différentes communes de signer l'arrêté avant le 31 décembre pour l'ouverture de ces 8 dimanches.
Merci Bertrand. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions à poser sur cette délibération ? Bon. S'il n'y a pas de questions, je vous la soumets au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc voté à l'unanimité. La délibération suivante concerne le rapport de situation en matière d'égalité hommes-femmes. C'est un rapport qui doit se faire au moment de la préparation budgétaire entre le DOB et le budget. Je vais laisser la parole à Philippe Saez sur le sujet. Qui va vous donner l'essentiel de ces rapports-là. Puis on pourra aussi se projeter sur les outils et les sensibilisations et communications que nous avons l'intention de mettre en place. Philippe Saez.
Merci, Monsieur le Président. Donc, comme l'a dit Charles Daillot, la loi du 4 août 2014 prévoit que pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, on doit présenter à l'Assemblée délibérante ce rapport annuel. Et ce rapport doit être effectivement être préalable au tout débat sur le budget. Donc dans ce rapport qui est joint à votre dossier, vous y trouverez dans un premier temps un état des lieux avec le nombre d'agents et la féminisation en comparaison avec la partie nationale. De façon plus précise pour ce qui nous concerne, les politiques publiques qui ont été mises en place au sein de l'agglomération, il y a 3 items. Le premier, c'est l'éducation. Au sein du pôle éducation, au travers du projet éducatif territorial, un certain nombre d'objectifs opérationnels ont été identifiés, dont un qui promeut l'égalité des chances. Et à l'intérieur de cet objectif opérationnel, on décline tout ce qui est l'égalité entre les femmes et les hommes. Le deuxième item, c'est au sein de la politique de la ville. Pour tout ce qui est égalité femmes-hommes, ça a toujours été inscrit comme une priorité, non seulement en interne, mais dans les axes transversaux du contrat de ville. Cette approche intégrée a consisté à réduire les inégalités dans l'accès à l'emploi principalement, mais également aux droits, aux services et aux espaces publics. Elle a été complétée par des actions spécifiques destinées à agir plus finement dans les inégalités persistantes et donc un certain nombre de formations spécifiques suivies par les agents du service ont été organisées, ainsi qu'un travail sur les enjeux de mixité et d'égalité dès l'enfance. Et enfin, un certain nombre d'actions sur les quartiers prioritaires sont portées par des acteurs associatifs, et donc on a des soutiens aux associations. Toutes les associations qui sont soutenues sont listées. Vous les trouverez dans le rapport. Le troisième item, c'est la culture. Donc il y a également une action au niveau de la culture, au travers notamment du théâtre de Gascogne, qui assume une mission de sensibilisation sur des sujets citoyens tels que la parité ou l'égalité femmes-hommes, et la diffusion de spectacles, bien entendu. Vous retrouverez dans ce rapport un certain nombre d'exemples. Enfin, je termine avec la méthode. On a une large mutualisation de la ville et de l'agglomération, la ville de Mont-de-Marsan. Donc il y a une formation commune de sensibilisation qui a été initiée et qui a été proposée à une centaine d'agents en 2016. À l'issue de cette formation, on a lancé un appel à volontariat pour identifier une personne qui propose une méthode de travail et prévoit aussi des modalités de travail avec les associations. Cet appel à volontariat n'a pas abouti parce qu'il y avait des autres axes de travail, notamment sur le temps de travail ou le régime indemnitaire. Donc cette proposition va être renouvelée en 2018, présentée en comité technique. Et l'objectif étant de, dès l'année prochaine, vous proposer un état des lieux et des formulations d'orientation un peu plus développées. Voilà.
Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport, ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez intervenir? Bon, simplement, moi, j'aurais une petite remarque. Bon, on va se dire les choses. C'est une première, hein, pour ce type de rapport pour notre assemblée. Et bien entendu, ça a vocation à être amélioré. J'insiste sur le fait que ça a vocation à être un rapport, certes, mais à déboucher sur des actions concrètes. On a vu qu'il y en avait déjà quelques-unes. J'ai rencontré il y a peu la déléguée auprès de la préfecture qui s'occupe de cette problématique d'égalité femmes-hommes pour essayer de voir aussi avec elle, déjà comprendre un petit peu les actions qui étaient faites et essayer de recenser aussi les outils pratiques de sensibilisation qu'on pouvait utiliser au sein d'une collectivité comme la nôtre, que ce soit au niveau des élus mais aussi au niveau des services. Donc il y a des outils de sensibilisation qui peuvent être des modèles des matrices de notices ou de courriers, voire de la PLV. Et également, elle m'a sollicité, on a acté le fait de pouvoir accueillir sur notre territoire en 2018, je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est au printemps, on vous communiquera la date, le Rallye des Olympes, qui est une manifestation qui a circulé jusqu'à présent sur la Com-Com de Jaune et je crois aussi sur l'Armagnac, de façon à organiser un rallye qui est un outil aussi de sensibilisation. On va de point en point dans une aglo, où on va de monument en monument, de site en site, et sur une journée ou deux, on a une sensibilisation qui se fait sur ces aspects-là. Et je voudrais enfin, même si c'est une obligation, je voudrais essayer d'aller au-delà et vous proposer ici, et porter à votre réflexion le fait que je souhaiterais qu'on crée un groupe de travail, une commission qui nous permette peut-être de professionnaliser ou d'avancer, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus qualitatif avec des outils plus concrets que ce rapport qui est une première et qui demande à être amélioré. Donc je ne fais pas un appel à candidature ici, mais sachez que ce soit au niveau du cabinet ou nous, on aura à vous solliciter peut-être ça et là, et s'il y a des bonnes volontés, pour qu'on puisse un peu travailler concrètement sur ces sujets, en utilisant les outils qui existent, en passant de la simple constatation, et en essayant d'être encore plus vertueux dans cette démarche-là. Voilà, je vous propose cette chose-là pour l'avenir. Donc sur cette délibération, il n'y a pas de vote, c'est simplement une information. Je vous propose de passer à l'autre délibération qui est la numéro 7. Et je vais laisser encore la parole à Philippe Saïs. Il s'agit de la mise à jour du tableau des emplois.
Merci, Monsieur le Président. Donc cette délibération, comme à chaque conseil, mise à jour du tableau des emplois. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est l'accès à l'emploi titulaire pour des agents contractuels. Nous avions 3 agents qui remplissaient les conditions pour passer des sélections professionnelles et intégrer la fonction publique territoriale. Un seul agent a présenté et réussi la sélection de technicien principal de deuxième classe. Donc je vous propose de créer l'emploi ci-dessous, un emploi technicien principal de deuxième classe à temps complet.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération, des remarques? Donc s'il n'y a pas de questions, je la soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc là, on va passer dans une série de délibérations qui sont liées au budget, que ce soit le budget principal ou les budgets annexes, et notamment le budget principal avec le BP 2018 par la suite. Je laisse la parole à Hervé Bayard.
Merci, Monsieur le Président. Je vais me rapprocher du micro. Excusez-moi, Madame la Première Vice-Présidente. Donc, en effet, il y a à peu près un mois, c'était le 7 novembre, on a eu à débattre du budget qu'on avait à construire à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. J'avais à cette occasion fait état du contexte dans lequel nous évoluions, également des contraintes auxquelles nous étions confrontés. Et puis, on avait fait un état un peu de la situation financière de l'agglo en essayant de nous projeter, puisque nous avions à cette occasion présenté une prospective jusqu'en 2020. Nous avions fait mention de nos objectifs. Ça fait déjà depuis quelques années que nous en faisons mention. Nos objectifs, c'est en termes de taux d'épargne et puis également en capacité de remboursement de la dette, puisqu'on s'est fixé donc 10% de taux d'épargne et puis 11 ans de capacité de remboursement de la dette, ce qui correspond aux obligations qui aujourd'hui nous sont faites par, obligations édictées par le gouvernement. Il faut rappeler qu'il faut bien mentionner le fait qu'un budget primitif, c'est un budget prévisionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas un budget qui est exécuté, puisque à l'issue des années budgétaires, on s'aperçoit que globalement, le budget d'investissement est réalisé à hauteur de 55%, et puis le budget de fonctionnement est réalisé aux alentours de 98%. Voilà ce qu'il en est. Donc on a voulu, comme l'année dernière, vous présenter un budget à travers une douzaine de chiffres, les chiffres à retenir, plutôt que vous noyer dans une multitude de statistiques, de pourcentages, de masse, de tout ça. On a voulu, une fois encore, donc à travers quelques diapositives et puis une douzaine de chiffres, donc vous livrer ce qui constitue l'essentiel de notre budget. Alors, on va y aller. Comment ?
Il faut d'abord qu'on vote les DM.
Ah, très bien. Je suis allé trop vite. Moi, j'ai parlé du budget. J'étais...
Non, pour un problème de forme, on vote d'abord les DM, les décisions modificatives.
C'était parti. Bon, alors, on va donc voter les DM. C'était pas le budget d'abord, non ?
Délibération numéro 8.
Alors... Oui, très bien. Donc, cette décision modificative donc, a pour but, en fait, de procéder à quelques ajustements en matière de frais de personnel. Donc, c'est l'essentiel. Donc, en fait, on bascule des crédits du chapitre 011 au chapitre 012. Et puis après, tous les autres ajustements, on va dire qu'ils sont plutôt anecdotiques du fait du montant des transferts opérés.
Merci. Est-ce que vous avez des questions sur cette DM ? Donc c'est la DM numéro 8, hein, qu'on reprenne bien l'ordre. Oui. Pierre Mallet.
Oui, merci. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, puisque dans cette DM, il est fait état de notamment de la mutualisation du cabinet et de son coût qui sera compensé, mais on n'a aucun chiffre. Est-ce qu'on pourrait avoir les chiffres pour savoir à peu près ce que représente cette charge au niveau de l'agglomération et au niveau de la ville, aujourd'hui ? Puisque cette mutualisation, si ma mémoire est bonne, a été votée sans le chiffrer à l'époque.
Oui, absolument. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Pierre, puisque en fait, le coût du cabinet aujourd'hui est 100 000 euros moins élevé qu'auparavant. Il y a eu une délibération. Il y a une délibération ensuite où on a des chiffres un peu plus précis. Hein, c'est dans l'ordre. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cabinet, la masse salariale du cabinet, c'est à peu près 300 000 euros hein, à 2 000 euros près. 36% sont sur l'agglo, 64% sur la ville. C'était auparavant 400 000 euros, ce qui correspond en fait pour l'agglo à une quote-part de 108 000 euros par an, hein, la masse salariale du cabinet. Quand je parle du cabinet, c'est au sens large du terme, avec également le secrétariat, alors qu'elle était auparavant de 135 000 euros. Donc on est plutôt vertueux en la matière, sachant que cette pondération, elle est légitime, et d'autant plus que depuis que je suis là, je demande en particulier aux collaborateurs de ce cabinet d'être très présents et d'être encore plus présents vis-à-vis des élus de l'agglo pour qu'il y ait une communication qui circule parfaitement au niveau de l'agglo et que vous puissiez vous appuyer sur les services du cabinet, notamment du secrétariat, que ce soit pour des aspects protocolaires, des convocations ou autres. Ces personnes-là se mettent à votre disposition et donc c'est complètement légitime qu'on puisse travailler de cette façon-là. Ça enrichit aussi le périmètre de leurs compétences et c'est relativement bien vécu et je pense que ça commence à être bien vécu aussi par certes les élus villes mais aussi les élus de l'agglo qui peuvent aussi s'appuyer et certains l'utilisent et je vous encourage Pierre à le faire à les utiliser donc voilà, donc c'est 300 000 euros le coût du cabinet, 36% pour l'agglo, 64% pour la ville et je tiens à vous dire que c'est complètement compensé bien entendu de l'autre côté en attribut de compensation. On verra d'ailleurs des chiffres un peu plus précis. Il y a un tableau sur la délibération qui suit où on a exactement les chiffres que je vous annonce. C'est sur la délibération 11, mais on y reviendra. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération ? Bon, merci. Donc je vais la passer au vote. Donc sur la délibération numéro 8, qui est contre ? Qui s'abstient ? Oui, par rapport au vote du budget. Donc on a... Alors, il faut qu'on compte, là. Il y a des... Donc il y a Renaud Leitet avec la procuration de Babet-Soulignac, ça fait 2. Monsieur Simon, 3. Et 4 ici, 4-5 sur Saint-Pierre. Donc 4 voix contre. 5 voix contre, pardon. Donc c'est voté à la majorité. La délibération numéro 9. Donc là, on est sur le budget transport. Je vais laisser Hervé Bayard la décrire. Il s'agit d'une DM.
Bon, alors là, c'est quelque chose d'assez simple également. Il s'agit de virements de crédit, donc de 24 100 euros, donc du chapitre 011 au 012. C'est une fois encore des ajustements. Voilà.
Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur cette délibération qui est un peu plus technique ? Pas de remarques. On la passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération suivante, qui est encore plus anecdotique, on va dire, parce que là, on est en centimes. Hervé Bayard.
Donc là, en effet, c'est encore plus anecdotique. Ça concerne des centimes, donc c'est simplement un ajustement de résultat de 40 centimes d'euros.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. La délibération suivante, là, il s'agit donc, et c'est là qu'on va pouvoir voir les chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure, il s'agit des ajustements, des attributions de compensation. C'est ce mécanisme comptable qui permet de gérer la partie transfert de compétences. Donc tout ça, ça passe par cette fameuse CLECT, cette commission qui valide tout ça. Et là, on parle d'ajustements, d'attributions de compensation qui sont liés à deux transferts. L'un, la saison culturelle, et l'autre, la mutualisation des services. Hervé Bayard, pardon.
Oui. Alors dans cette délibération, c'est très simple. C'est-à-dire que le Conseil communautaire a approuvé le 26 septembre 2017 l'extension de la compétence facultative action dans le domaine culturel. À cette occasion, la CLECT, donc, qui est la commission locale d'évaluation de transfert des charges, a convenu du montant de ce transfert et l'impact sur l'attribution de compensation de la ville de Mont-de-Marsan. Le total donc de ce transfert s'élève à 153 252 euros. Alors par ailleurs, il convient d'intégrer la mutualisation du service commun du cabinet. Il a été fait allusion à ce transfert il y a un petit instant, qui représente 298 275 euros en année pleine. Et puis il s'agit également d'actualiser le coût de mutualisation des services ressources qui s'élève pour 2016 à 2 279 096 euros. Donc vous avez un tableau qui décompose ces sommes par service et également la quote-part due par la ville de Mont-de-Marsan et la quote-part due par Mont-de-Marsan agglomération. Donc en 2016, nous avons les coûts laissent apparaître une baisse de 114 345 euros concernant les services supports. J'en faisais mention, il s'agit donc de la somme de 2 279 096 euros. Cette diminution est consécutive à des mouvements de personnel ou des départs qui n'ont pas donné lieu à des remplacements en raison d'efforts de rationalisation et de modernisation de nos services. La répartition des coûts des services entre la ville de Mont-de-Marsan et Mont-de-Marsan Agglomération est basée sur des critères de répartition par service, le nombre de mandats, les effectifs, le nombre de procédures lancées, etc., etc. Cette amélioration représente 95 000 euros pour la ville de Mont-de-Marsan et 19 344 euros pour Mont-de-Marsan Agglomération. Il faut noter également une hausse du service commun direction générale de 15 670 euros en raison du recrutement en cours d'année d'une DGA en charge du pôle éducation et jeunesse. Cette DGA, à compter de 2018, sera mutualisée avec le CCAS suite au départ de sa directrice, de sorte que le coût de ce service commun sera en diminution. Le service commun en 2016 s'élève à 302 876 euros. Enfin, il faut faire état d'une baisse du service commun du cabinet de 104 881 euros en raison du non-remplacement de collaborateurs de cabinet pour s'élever à 298 275 euros en 2017. Donc, dessous, enfin, vous avez sur la délibération les tableaux qui attestent donc de la répartition pour Mont-de-Marsan, à savoir moins 95 000 euros. Voilà ce qu'il en est, Monsieur le Président.
Merci. Donc sur cette délib, en effet, le tableau montre bien le avant-après. Hein. C'est-à-dire, vous avez le tableau sur la première page où on voit notamment sur la page de droite, sur la colonne de droite, le cabinet, donc le coût avant, le coût après, ce qui correspond à 1 000 ou 2 000 euros près à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions sur cette révision d'attribution de compensation? Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. La délibération suivante, on est sur des APCP. Hervé Bayard.
Alors régulièrement, en conseil communautaire, nous avons donc à procéder à des modifications des APCP. Donc nous avons une dizaine de programmes qui font l'objet donc de cette démarche. Il s'agit en effet, sur plusieurs années, de programmer des crédits. La délibération là, qui vous est proposée concerne un seul de ces programmes, puisqu'il s'agit du programme annuel de voirie. Étant donné qu'en 2018, nous serons à 1,5 million, en 2019 à 2,5 million, et en 2020 à 2,5 million.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette APCP? Pas de remarques. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. La délibération suivante, numéro 13, sur les associations reconnues d'utilité publique et une exonération du versement transport. Hervé Bayard.
Alors, nous avons été sollicités par deux associations qui d'utilité publique. Il s'agit du Stade Montois Omnisports et la Ligue de l'Enseignement, qui souhaitaient être exonérés de la redevance transport. Donc, il est proposé dans cette délibération de procéder à cette exonération.
Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Pas de questions. Donc je vous propose de la passer au vote également. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, l'assujettissement de l'exploitation des aires d'accueil du gens de voyage à la TVA. Hervé Bayard.
Alors, donc, lorsqu'une collectivité rend un service qui... peut-être également proposé par une entité privée, les services offerts font l'objet de la TVA, sont assujettis à la TVA. Donc là, il s'agit de l'exploitation d'aires d'accueil des gens du voyage. Et donc, à partir de là, nous allons maintenant, dorénavant, procéder à un assujettissement à la TVA, ce qui représentera une recette nouvelle pour la collectivité de l'ordre de 20 000 euros.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ou des remarques? Donc c'est une économie qui est réalisée en fonctionnement, donc c'est appréciable. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va commencer à rentrer dans les budgets primitifs avec la délibération numéro 16. Et là, on est sur le budget annexe des logements. Hervé Bayard.
Non.
C'est la 15? Pardon. Non, si, c'est ça. La 15, attendez, la 15, je ne l'ai pas. Non, on commence. Non, c'est le budget, pardon. Donc le budget primitif, budget principal et budget annexe, Hervé Bayard, pardon. Délibération numéro 15.
Très bien. Alors, nous y revoilà. Je m'étais un peu emballé tout à l'heure. Excusez-moi. Donc je ne vais pas vous faire l'introduction. Je voudrais simplement vous dire qu'à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, on avait parlé de prudence et de détermination. Donc on est toujours dans cet état d'esprit. On peut également parler de responsabilité. Et puis vous précisez qu'on est en train de... On construit un budget qui à la fois nous permet d'assumer le présent, c'est-à-dire permettre à nos services de fonctionner, et puis également un budget qui doit préparer l'avenir, notamment en matière d'investissement. Alors, je le répète, on a construit une petite présentation sur la base d'une douzaine de chiffres, parce que si vous arrivez à retenir ces 12 chiffres, je pense que ça doit être possible, vous aurez compris le budget de la communauté d'agglomération. On y va. Voilà. Alors là, vous avez à l'écran donc la balance générale concernant le fonctionnement. Ce qu'on peut dire sur cette balance, c'est que nous avons une évolution des dépenses de fonctionnement de 3,33%. Mais finalement, si on retire de ces 3,33% toutes les écritures d'ordre, nous avons une évolution réelle des dépenses de 0,68%. Ce qui est plutôt une satisfaction parce que ça montre que nous contenons nos dépenses de fonctionnement. C'est un challenge important si nous voulons dégager une épargne qui soit suffisante pour financer notre investissement. De la même façon, nous avons des recettes qui évoluent de 3,16% si nous enlevons les opérations d'ordre. Il faut mentionner les charges à caractère général qui évoluent de 3,22%. On s'est fixé comme objectif dans les années à venir de contenir cette évolution à hauteur de 1%. Là également, c'est un véritable challenge parce qu'il faut donner la possibilité à nos services de fonctionner. Et pour autant, nous n'aurons pas d'autre solution si nous voulons dégager une épargne suffisante. Le virement à la section d'investissement, si on fait la comparaison avec le budget précédent, augmente de 45%, ce qui est un point positif. Et puis, en matière de recettes de fonctionnement, on opère un transfert, puisque donc, avec la disparition de la taxe d'habitation, nous avons une ligne, le chapitre 73, impôts et taxes, qui diminue. Mais par contre, nous avons le chapitre 74, dotations et subventions, qui augmente d'autant, puisque donc, la disparition de la taxe d'habitation doit être compensée. Il faut dire qu'on enregistre également une augmentation de la DGF, du fait de l'augmentation de notre CIF, puisque nous avons intégré des compétences supplémentaires. Mais cette augmentation de la DGF est quand même écrêtée, puisque la DGF ne peut pas augmenter de plus de 130%. On passe à la diapo suivante. Donc, la diapo suivante reprend certains des chiffres que j'ai mentionnés. Nous avons des charges de personnel. Concernant les dépenses de fonctionnement, nous avons des charges de personnel qui sont de l'ordre de 20 469 432 euros, ce qui signifie très clairement que nous sommes devenus une collectivité de fonctionnement avec des services quand même qui sont très importants. Ça représente 49,70% de nos dépenses de fonctionnement. Nous avons à peu près 500 emplois permanents au sein de notre collectivité. Cette charge évolue de 0,80%, en fait de 1,33%, mais si on enlève l'impact cabinet, impact qui est compensé, nous avons des dépenses, nous devons prendre en charge une partie des frais de personnel du cabinet, mais d'un autre côté, la ville de Mont-de-Marsan nous verse l'équivalent. Cette évolution est plutôt satisfaisante dans le sens où, en fait, c'est une dépense qui est quand même maîtrisée. Il faut savoir que l'augmentation d'un seul pourcent donc, des charges de personnel, vous imaginez, ça représente 204 000 euros. Donc on a tout intérêt, si on veut contenir nos charges de fonctionnement, de gérer correctement la masse salariale. En matière de charges courantes, donc, on affiche le chiffre suivant, 7 741 369 euros, plus 3,22%. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les années à venir, on aura des efforts à faire de façon à contenir cette dépense et de faire en sorte qu'elle n'évolue que de 1% par an. Ce serait un objectif. C'est un objectif ambitieux, mais qu'on devra tenir. Concernant les atténuations de produits, nous avons 1,5 million de dotations de solidarité communautaire. Cette dotation est en baisse cette année de 150 000 euros. Nous avions convenu que la dotation, la DSC baisserait de 300 000 euros, 150 000 euros en 2017 et donc 150 000 euros en 2018, ce que nous faisons aujourd'hui. On doit mentionner également le montant des charges financières à hauteur de 1,7 million. Globalement, ça ne bouge pas. Et puis, on doit également mentionner les baisses de subventions, d'une part à l'Office du tourisme de 25 000 euros. Dans le cadre du plan triennal, nous avons prévu de baisser de 25 000 euros cette subvention chaque année jusqu'en 2020. Et puis, nous avons également une baisse de la subvention au CIS de 30 000 euros. Alors, toujours dans les dépenses de fonctionnement, donc on en a fait mention, les charges de personnel évoluent de 0,80%, ce qui représente une hausse de 160 000 euros. Cette hausse s'explique par la revalorisation du GVT à hauteur de 182 000 euros et puis également des mouvements de poste entre arrivée et départ. Nous enregistrons une baisse de 21 000 euros. Alors, sur les tableaux suivants, vous avez donc un état assez succinct d'ailleurs de l'évolution des services mutualisés. Le coût de ces services représente 3 083 803 euros. Ce qu'on peut dire, c'est que cela concerne 76 agents de notre collectivité, dont 41 qui ont été transférés de la ville à l'agglomération. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'en fait, nous avons un gain de 208 558 euros du fait que nous ayons mutualisé. Entre l'avant et aujourd'hui, pour le même service rendu, la mutualisation nous a permis de réaliser une économie de 208 000 euros, ce qui est plutôt intéressant et qui doit nous inciter à aller vers une mutualisation encore plus importante. Alors, les recettes de gestion, donc, nous avons 29 895 965 euros. Donc, nous avons prévu d'augmenter les taux ménages de 3,8%, la CFE ne bougeant pas. Depuis que nous avons été élus, la CFE n'a jamais bougé. D'ailleurs, ce qui permet à notre territoire d'être particulièrement compétitif en matière de fiscalité des entreprises. 3,8% de hausse des taux, c'est entre 2 et 4 euros par ménage et par mois. Voilà. Et puis, dans notre prospective, on a prévu une baisse de ce taux. C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter de 3,8 dans les années à venir, nous n'augmenterons plus que de 2% en 2019 et en 2020. Tout cela représente 66% de nos recettes de gestion. La part diminue en raison de la suppression de 30% des bases de la taxe d'habitation. Donc cette année, la taxe d'habitation va disparaître à hauteur de 30%, 30% l'année d'après et 20% l'année suivante. Nous avons une DGF qui est de 4 997 000 euros. Et puis, nous avons des allocations compensatrices à hauteur de 3 030 535 euros. Alors, il faut mentionner qu'il faut dire qu'en Aquitaine, nous avons des taux de taxes du foncier bâti et de CFE qui sont les plus faibles. Et puis, ensuite, nous avons des produits d'exploitation qui représentent 10,43% de nos recettes. C'est dû au fait que nous ayons intégré des services tels que les services scolaires, qui, bien sûr, peuvent rapporter à la collectivité quelques produits. La diapo suivante, nous en sommes à l'épargne, dont l'épargne brute donc nous permet à la fois de rembourser notre dette et puis à la fois de financer nos investissements. Donc là, nous en sommes à 4 228 858 euros, ce qui représente un taux d'épargne de 9,40%. Donc nous sommes fixés comme objectif 10% de taux d'épargne. Donc vous voyez que nous n'en sommes pas très très loin. L'endettement cette année prévu se situe à hauteur de 9 millions d'euros. Et puis nous avons une capacité de désendettement qui tourne autour de 17 ans. Alors maintenant nous sommes sur la balance qui concerne le budget d'investissement. Donc ce qu'on peut dire, c'est que nos dépenses d'équipement, surtout, se situeront à hauteur de 10,5 millions d'euros, dont 3,5 millions d'euros seront consacrés à notre contribution à la LGV. Nous avons inscrit 3,5 millions en 2017 et nous inscrivons 3,5 millions en 2018. Voilà. Alors ensuite, donc, puisqu'on parle d'investissement, on peut peut-être énumérer les investissements majeurs auxquels nous allons procéder. Donc nous avons 1,5 million de programmes de voirie, nous avons 350 000 euros de pistes cyclables. Nous avons la deuxième phase de la voie nord. Les travaux ont déjà commencé. Il s'agira de les terminer cette année. LGV 3,5 millions, j'en ai fait mention. Nous avons un gros programme en faveur du logement et notamment des logements sociaux à hauteur de 800 000 euros. 285 000 euros qui se rajoutent pour lutter contre l'habitat insalubre. 250 000 euros qui concernent la démolition de Yvonne Isidore, c'est dans le cadre de la réalisation de la MAP, de la maison d'accueil temporaire. Ensuite, il s'agit donc de consacrer 500 000 euros en matière de politique de la ville pour participer au financement du COSEC. Nous avons 1 million d'euros que nous consacrerons à nos écoles, à la fois des travaux à hauteur de 880 000 euros et puis 120 000 euros pour le numérique dans ces mêmes écoles. Et puis nous consacrerons 120 000 euros à la modernisation de nos cuisines communautaires. Et puis en fait, nous avons une somme de 229 000 euros qui est consacrée aux travaux et à l'équipement dans nos bâtiments. Nous en avons un certain nombre, que ce soit la médiathèque, le pôle culturel, la plateforme sociale et d'autres et d'autres. Voilà en ce qui concerne le budget primitif. On peut passer au budget annexe. Nous en avons trois de budget annexe. Nous avons le budget transport, qui est le plus important. Nous avons le budget logement et nous avons également le budget des zones d'activité. Le budget transport, donc, nous avons 2,7 millions qui est la contribution aux délégataires. Nous avons 2,9 millions qui correspond au versement transport. Et puis nous avons une subvention d'équilibre de l'ordre de 200 000 euros. Cette subvention est à la baisse puisqu'il fut un temps pas si lointain, c'est-à-dire l'année dernière, cette subvention d'équilibre était de 400 000 euros. Le budget annexe logement, donc nous avons en gestion 80 logements. Enfin, nous sommes propriétaires de 80 logements. Les loyers nous rapportent 470 000 euros. Nous avons une annuité donc, d'emprunt de 346 000 euros, l'amortissement de 124 000. Et puis, nous avons une petite enveloppe, notamment pour les gros travaux, de l'ordre de 108 000 euros. Enfin, le dernier budget, c'est le budget des zones d'activité, donc qui retrace acquisition et aménagement. Alors, acquisition, aménagement et cession. Et donc là, il y a une somme inscrite de l'ordre de 142 000 euros. Voilà, Monsieur le Président.
Merci, merci à vous. Avant de passer aux échanges et aux choses, juste rectifier une petite chose. Moi, on a une capacité des endettements qui est de 13 ans en réalité, je crois, et pas 17. Mais en incluant les budgets annexes, on prend 2 ans de plus, donc ça veut dire 15 ans. Hein, en faisant le calcul, on a 54 millions d'encours de dette, on a 4 millions d'épargne, ça fait 13 ans. Et en effet, en rajoutant c'est la première chose. Souligner ici qu'en épargne brute, notamment, on n'est pas très très loin de l'objectif qu'on se fixe. Hein. Souligner également que on commence à voir à pouvoir toucher du doigt les effets de la mutualisation, notamment en économie et en charge de personnel. On n'est pas encore en plein régime, mais on voit qu'il y a des choses qui sont maîtrisées avec des évolutions des charges personnelles qui sont bien moindres que ce qui pouvait se produire avant. On a des écritures un petit peu faussées aussi avec cette histoire de taxe d'habitation. Vous voyez qu'il y a 2 millions d'un côté de moins en dotation, en impôts, et puis ça passe en dotation, puis c'est intégralement compensé. Voilà les petites choses que j'ai pu noter ça et là, mais on va pouvoir ensemble en discuter. Donc si vous avez des remarques ou des prises de parole, je vous écoute. Renaud Leitet.
Monsieur le Président, on a déjà largement débattu lors de la dernière séance à l'occasion du débat d'orientation budgétaire sur la situation de l'agglomération. Donc je vais faire simplement quelques observations. M. Bayard a rappelé que les dotations de l'État au travers de la DGF augmentaient de façon significative grâce à l'augmentation du CIF. Et donc, on ne peut plus entendre aujourd'hui le sempiternel discours sur les baisses de dotations de l'État qui seraient au fond la conséquence de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'agglomération. Quelle est cette situation ? Je reprends les différents éléments qui viennent d'être énumérés. On a un endettement qui est important. Monsieur le Président, vous avez rappelé l'encours de la dette de l'ordre de 54-55 millions d'euros. Donc une dette qui a considérablement augmenté. Une capacité de désendettement, Monsieur Bayard nous a parlé de 17 ans. Vous avez indiqué que ce serait un petit peu moins. Mais en toute hypothèse, nous sommes sur une durée qui est supérieure au seuil qui est communément admis d'alerte de 15 ans. Nous avons un taux moyen de la dette de l'ordre de 3,30%. On n'en a pas parlé ce soir, mais c'est dans le budget annexe sur les zones d'activité. On a ce prêt obligataire qui pose quand même difficulté de 9 900 000, près de donc de 10 millions d'euros. Sur le budget zone d'activité, un prêt qui a été contracté sur 10 ans avec quand même des intérêts annuels de l'ordre de 427 000 euros. Vous avez indiqué que vous avez été contraint de faire un prêt pour pouvoir honorer la condamnation du tribunal administratif de Paris concernant la convention de financement de la LGV. Je me suis déjà exprimé ici sur l'imprévoyance qui avait été la vôtre de ne pas provisionner ces sommes. Et c'est mis au titre des investissements, bien sûr. Mais enfin, cette année, c'est 3,5 millions qui sont consacrés à cette dépense. Ce que nous constatons, c'est que nous avons des investissements qui sont en berne. C'est le strict minimum. Les projets sont souvent repoussés, peut-être certains abandonnés. Je pense repousser le café musique. On a déjà évoqué ici à plusieurs reprises le projet du biome dont on nous disait son importance pour le développement touristique du territoire. Vous nous avez clairement indiqué que ce projet se trouvait au point mort. Ça vient s'ajouter évidemment pour les Montois à l'abandon des nouvelles galeries, un projet des halles qui tarde à venir, à une salle Barbe d'Or également qui est repoussée dans sa restructuration. Donc un investissement dont il nous a été rappelé que le taux de réalisation était de l'ordre de 55%. Nous sommes en projet à 6 millions d'euros d'investissement. C'est très faible. Et j'entends déjà l'observation qui me sera faite, puisqu'elle m'est toujours adressée, à savoir, soit vous dites quand il y a trop d'investissements, vous condamnez, quand il n'y en a pas assez, vous condamnez. Tout à fait, Monsieur le Président, parce que nous considérons effectivement qu'une bonne gestion vous aurait conduit à étaler dans le temps les investissements de façon à garantir chaque année un niveau d'investissement satisfaisant. Et aujourd'hui, nous sommes quand même dans un niveau d'investissement qui est très bas au regard d'une communauté d'agglomération comme la nôtre. Je note également, vous l'avez indiqué tout à l'heure, Monsieur Bayard, une diminution de la subvention au CIS de 30 000 euros. Nous avions également noté en commission des finances, il n'en a pas été fait état ce soir, de certaines diminutions de subventions en matière culturelle, et notamment, vous nous aviez précisé, de la manifestation à tout cœur, qui est tout de même un événement, me semble-t-il, important sur notre territoire. Bon, il y avait un abandon de subvention concernant également les fêtes des rivières, mais tout ça ne va pas dans le bon sens. Et au surplus, même si on commence à s'y accoutumer, il y a une augmentation significative de l'imposition. Alors je veux bien qu'on ramène l'imposition, ce que ça coûte par mois. Vous allez finir par évaluer ça à la minute ou à la seconde. Ça ne me paraît pas sérieux. Il y a quand même une pression fiscale qui est extrêmement qui est importante. Et pour, je veux dire, une situation générale qui n'est pas reluisante. Ce tableau, c'est un résultat qui me paraît très affligeant. Nous l'avons déjà dit, mais nous le redisons. C'est le fruit d'une gestion qui n'a pas été suffisamment rigoureuse pour les raisons que j'ai déjà eu l'occasion à maintes reprises d'exprimer ici. Et bien évidemment, pour l'ensemble de ces raisons et celles que nous avons déjà données par ailleurs, nous voterons contre ce budget.
Merci. Avant de vous répondre, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions ? Pierre Mallet.
Merci. Je vais rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, et notamment sur À tout cœur, que vous savez très bien que ça me tient particulièrement à cœur. Lorsque ce festival a été créé, il a été créé pour une raison bien précise. C'est d'abord et avant tout pour apporter de la culture en milieu rural. Je suis, tout le monde le sait, assez attaché au développement de cette culture. Et d'ailleurs, Marsan-sur-Seine a aussi été créé pour ces mêmes raisons. Je rappellerai à toutes et à tous que la subvention d'À tout cœur, 80%, permet aux enfants et à tous les enfants de l'agglomération de créer et d'assister tous les ans à un spectacle. Et je vois que les choses sont un peu ciblées, mais je voulais le rappeler parce que bon, s'en prendre à la culture aux enfants, c'est peut-être pas la meilleure des solutions quand on veut faire des économies. J'aurai une autre question tout à l'heure concernant la voirie, puisque bon, j'ai pris connaissance cet après-midi d'un tableau par rapport aux diminutions voirie. Je pensais que l'effort était partagé et j'ai vu qu'il était très ciblé, puisque il n'y a que la commune de Benquet qui a disparu.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais essayer de répondre à quelques-unes des remarques. Jean-Louis Ariotto.
Président, c'est par rapport au budget qui a été présenté. Moi, je reviendrai sur la maison d'accueil temporaire. Je vois que sur le budget 2018, il n'y a que la démolition de la maison Isidore qui est prévue. Je voudrais savoir en termes de délai, par rapport à un besoin réel qui est sur ce territoire, par rapport qui est attendu, je crois, de par les EHPAD, etc., pour les aidants. Je crois qu'il y a un besoin urgent sur ce territoire de la maison d'accueil temporaire. Donc je voudrais connaître le phasage exact par rapport à ce projet.
Alors, je vais essayer de répondre aux questions de façon un petit peu précise, le plus précisément possible. Alors, peut-être pour la partie, on va commencer par la maison d'accueil, par la fin, par la maison d'accueil temporaire. C'est un projet partagé par tout le monde. Hein. On est tous très, très conscients du besoin. La démolition de la maison Isidore qui est là, c'est pour cette année, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir ensuite débloquer les chantiers. Et nous avons voté ensemble 300 000 euros, phasés en deux fois, 150 et 150, de façon à ce que ce chantier démarre et avance. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir le faire avancer très rapidement. On a eu, sur ce plan de financement, des allées et venues, puisque nous avions auparavant appuyé nos décisions ou nos projets sur un financement et une subvention de l'État de l'ordre de 1 million d'euros. Cette subvention est redescendue à 500 000 euros. Récemment, on a une meilleure surprise, on est plutôt aux alentours de 800 000. Donc c'est vrai que là aussi, il y a eu quelques atermoiements au niveau du plan de financement, mais ça n'a pas érodé notre volonté de faire aboutir ce dossier. Donc je vous rassure par rapport à ça, la maison d'accueil temporaire, c'est une de nos priorités et ce sera fait. On va détruire il faut d'abord détruire la résidence Isidore et ensuite on a bien fléché une somme. En ce qui concerne la voirie, Il y a une commission voirie prochainement, et c'est là qu'on va discuter des arbitrages. Hein. Donc, alors cette commission, elle a lieu le 19 décembre, et c'est là qu'on partagera. C'est la méthode, moi, que je préconise, pour qu'on puisse avancer et partager. Il n'y a pas de... On ne cible pas en particulier telle ou telle commune.
Excusez-moi, j'ai vu un tableau, hein, un tableau avant-après, il est déjà dans les tuyaux. Enfin, moi, je l'ai vu parce qu'il a été demandé au service. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Si vous me dites que ce n'est pas le cas, ça me rassure un petit peu. Investissement de sécurité, puisque pour des efforts.
Donc sur cet aspect-là, vous avez dû voir un document de travail. Donc on est en commission et on partagera. Alors, je ne sais pas si ce sera maintenu, cette ligne-là, mais moi j'ai pour habitude de le partager collectivement. Et on mesurera ensemble quels sont... commune par commune, les efforts déjà faits ou pas faits pour qu'il y ait une équité entre les communes. Je voudrais revenir plutôt sur la partie qui a été soulevée par Renaud Leitet. Alors c'est vous êtes affligé, c'est catastrophique, c'est marrant, c'est un copier-coller de nos débats locaux. Oui, vous avez raison. Je remarque en effet que c'est tantôt trop vite, tantôt trop lent. Voilà. Donc là, en ce moment, c'est trop lent. Avant, c'était trop vite. Donc je ne sais plus sur quel pied danser. Je ne suis pas certain que globalement, les maires ici soient mécontents que la plupart des bourgs aient pu bénéficier d'une rénovation. Je dis bien la plupart parce que là, on était encore en commission d'appel d'offres sur Saint-Perdon. C'est en cours. Et je pense que ça... alors peut-être que ça a été trop rapide, mais pour un maire qui attend des travaux dans sa commune, je crois que c'est jamais trop rapide. Peut-être aussi c'est parce qu'il fallait accélérer un peu au regard de ce qui se passait avant. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne alors des bourgs refaits, le boulevard Nord aujourd'hui, les écoles numérisées, des efforts tout particuliers sur le scolaire, vous l'avez vu, y compris en fonctionnement aussi, des efforts de voirie... quand vous dites l'investissement est en berne, on fait une pause, en effet, on tient compte de l'actualité, mais tous les investissements qui ont été faits sont faits avant, sont quand même importants. En ce qui concerne le café musique, alors, vous tombez bien, j'ai reçu les dirigeants du café musique ce matin, c'est un dossier qui est suivi aussi par Nicolas Tachon, vice-président. Nous inscrivons dans notre PPI, dans notre plan pluriannuel d'investissement, le café musique. Il n'est pas sur le budget 2018, mais il est investi, il est prévu. Et après, en ce qui concerne le reste, c'est vrai que vous parlez d'un endettement important. Bon, vous voyez bien qu'il y a des efforts qui sont faits pour ramener cet endettement dans un ratio de 12 ans. Vous parlez également d'un taux de dette à 3,30. Bon, ce qu'on pourra faire peut-être, je me tourne aussi vers la commission finance et la commission de dette, c'est réunir une commission de pour revoir si on peut faire baisser ce taux moyen. Et puis je vous invite à cette commission, vous nous ferez bénéficier de votre expérience en matière de négociation pour pouvoir peser sur les banques de façon à baisser les taux. Vous êtes le bienvenu, parce que si on peut en effet faire baisser un petit peu par des rachats ces taux moyens, vous êtes le bienvenu. Mais sachez qu'on le fait par un cabinet qui est en veille là-dessus et qui régulièrement nous fait des préconisations pour essayer de renégocier tel ou tel taux. Donc bon, Je prends les choses les unes après les autres. Vous parlez de la LGV. La LGV, de toute façon, il aurait fallu la payer. Qu'on la paye, qu'il aurait fallu... Si c'était il y a 2 ans ou cette année ou l'année prochaine, c'est un investissement qu'il fallait régler. Comprenez qu'on a marqué une pause sur ce règlement parce qu'on était dans une procédure aussi juridique. Donc aujourd'hui, on a été condamné à payer immédiatement. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à se battre. Avant la fin de l'année, moi, je monterai à Paris pour défendre avec d'autres comcom auprès du ministère la position des agglomérations et des collectivités qui sont situées au sud de Bordeaux, que ce soit celles qui attendaient une ligne et qui attendent toujours une ligne entre Bordeaux et Toulouse ou celles qui attendent une ligne entre Bordeaux et l'Espagne. Donc la partie n'est pas perdue. Hein, on souhaite que la LGV, je crois que vous êtes partisan de ça aussi, mais on ne baisse pas les bras là-dessus. Et nous avions toujours imaginer cet investissement, et on est toujours dans cet esprit-là, de façon à ce que la ligne soit prolongée et qu'on puisse bénéficier, et les choses ne sont pas pliées en la matière. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors quant au reste, je ne sais pas s'il y a des aspects plus techniques ou sur des choses que voulait Hervé intervenir, mais voilà ce que j'avais à vous dire sur le côté affligeant. Quant à la fiscalité, vous qui avez été, à l'époque où vous étiez aux affaires, dans la ville centrale un spécialiste du levier fiscal tous les ans, alors que vous aviez beaucoup plus de DGF qu'à l'époque. Alors vous allez nous sortir la pérennisation d'emploi et autres. Je crois que vous êtes mal placé pour nous parler de nous donner des leçons en matière de fiscalité. Hervé Bayard.
Oui, pardon, Monsieur le Président, je me permets de vous répondre.
Vous avez augmenté les impôts chaque année alors que vous aviez beaucoup plus de DGF que maintenant.
Ni maire ni président de la commission des finances, mais je crois de ce côté-là ne pas avoir de leçons à recevoir. Je vous dis effectivement que par rapport à la période que vous, je vous le redis, à laquelle vous faites référence, d'abord, il y avait une inflation qui n'est pas la même qu'aujourd'hui, et c'est vrai que la ville de Mont-de-Marsan, à l'époque, et j'avais voté cette délibération, et je suis très heureux de l'avoir votée, qui consistait à pérenniser, à l'époque, 50 emplois jeunes au sein du personnel municipal. Et c'est vrai que ça avait eu une incidence sur la fiscalité locale, mais je pense que c'était un acte fort de solidarité, et je ne le renie, ce n'était pas du tout à la veille des élections, c'était en 2000, non, c'était en 2003 ou 2004, donc... Mais si c'était à revoter, je pense que c'était un acte important de solidarité à l'époque. Ceci pour répondre.
Hervé, peut-être des compléments.
Ça marche. Moi, simplement, concernant les dépenses d'équipement, en fait, quand on compare à des villes de la même strate, on s'aperçoit que finalement, par habitant, on a investi beaucoup plus que d'autres. Puisqu'en fait, en dépenses d'équipement par habitant, nous sommes à 185 euros, alors que si on compare par rapport à la strate est à 118 euros. Donc vous voyez, le différentiel est quand même très important. Donc on ne peut pas non plus nous faire le reproche de ne pas suffisamment investir, parce qu'il y a beaucoup d'autres collectivités qui sont à peu près de la même dimension que la nôtre, qui investissent beaucoup moins. Donc on a quand même cette ambition de continuer à investir, simplement parce qu'on est conscient du fait que l'investissement, c'est l'avenir. Donc et c'est l'attractivité de notre territoire. Ensuite, vous parlez du taux du taux d'emprunt. Mais vous parlez d'un taux d'emprunt moyen, c'est-à-dire qu'il y a des crédits qui ont été contractés il y a 10 ans, il y a 15 ans, et forcément, ils ont été contractés peut-être à des taux qui sont plus importants que ce que nous empruntons, qu'au taux actuel, qui aujourd'hui, nous empruntons à peu près à 2%. Et d'autre part, nous avons récolté également, nous avons récupéré, du fait du transfert de la compétence scolaire, nous avons récupéré des emprunts venant d'autres collectivités, et notamment des communes. Donc ce comparatif, il est difficile à faire, et même de votre part, il est plutôt un peu biaisé. Voilà. Je voudrais préciser que cette question-là, Monsieur Laïtet, on l'a étudiée déjà depuis longtemps. Vous doutez bien qu'on cherche toutes les pistes d'économie possibles, que dépenser l'argent pour dépenser, c'est pas quelque chose qui nous convient. On essaie au contraire de dépenser l'argent pour qu'il soit le plus utile possible. Et je me souviens avoir, au sein de la Commission des finances, créé un groupe de travail justement pour étudier notre dette, la façon dont on pouvait peut-être la restructurer à un moment donné, et de façon à réaliser des économies. Mais la réalité est celle-là, et malheureusement, il est difficile aujourd'hui de la changer. Mais aujourd'hui, nous empruntons à des taux qui sont vraiment plus que raisonnables, qui sont vraiment très intéressants. Voilà, donc on est attentif à cette question-là également.
De taux à 2%, alors que au département, ils sont à 1%. On en reparlera en commission des finances, mais bon...
Monsieur Laïtet fait partie de la commission des finances, mais on en reparlera en commission des finances, tout à fait. Et vous verrez qu'il n'y a aucun dysfonctionnement de ce côté-là.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant qu'on passe au vote? Monsieur Clavé.
Monsieur le Président, voilà, je voulais juste attirer l'attention parce que par rapport au budget voirie, donc il a été diminué d'un million d'euros. Il faut savoir que déjà en début de mandat, nous avions baissé l'enveloppe d'un million d'euros annuellement, que le PPI qui avait été établi a été assez compliqué à mettre en place, qu'il y a 550 kilomètres de voirie. Elle est parfois en bon état, parfois moyenne, parfois en mauvais état. Et c'était le minimum qu'il nous fallait. Aujourd'hui, on a enlevé un million d'euros. Alors apparemment, c'est pas acté. Soi-disant, d'après ce que j'ai entendu, c'est au retrait à la demande de certaines communes. Mais ce ne sont pas, je suppose, des retraits purs et simples, parce que les travaux, à un moment donné, il faudra les réaliser. Et que ce million d'euros, à un moment, il faudra le rajouter. Et que ça ne fait que détériorer encore la voirie, qui est déjà pas en très bon état, sachant qu'on avait un programme faussé de 100 000 euros qui n'a pas été fait cette année. Ça tombe bien, il n'a pas plu. Pour le moment, mais ça risque de pas durer. Et on sait bien que si on n'a pas de programme voirie, les routes se détériorent beaucoup plus vite et qu'on entraîne des travaux. Alors, je suis pas sûr que ce soit des économies. Voilà, je vous le dis, Monsieur le Président.
Merci Dominique Clavet. Juste vous dire, donc en effet, on a positionné 1,5 million cette année sur BP 2018. Sur le PPI, on repart sur 2,5 millions les années suivantes. Hein, vous n'êtes pas sans savoir, un, qu'on a ce traitement de la LGV à décaisser en une seule fois, même si je ne désespère pas de l'étaler un petit peu. Je vous en dirai peut-être plus à la fin du mois. Et puis, c'est des choses, c'est des choses qu'on doit partager, qu'on a commencé à partager. Il me semble qu'on a fait des ateliers. Vous étiez à Luc Bardès. On a fait plusieurs réunions. Alors, c'est vrai que le problème du partage, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais le but, c'est de surtout partager les choses et puis qu'il y ait une majorité ensuite qui s'en... Donc, rassurez-vous, cette pause-là, cette année, 1,5 million, plus 500 000 euros qui va servir à faire l'apport pour le COSEC sur Saint-Pierre-du-Mont, ben on repart après sur un PPI à 2,5 millions. Mais je suis très très conscient que voilà, la voirie, c'est une priorité, qu'il y a des travaux qu'il faut faire qui sont vertueux, parce qu'après ça se dégrade de plus en plus. Je voudrais aussi souligner quand même le travail qui est fait à la fois par les élus en charge de ça et les services, qui est un travail de fourmi, où le PPI c'est une chose, mais bon, on peut quand même toujours essayer de s'adapter aux circonstances. Et sur ce PPI, il y a un travail qui est fait en ce moment d'aller voir rue par rue, voirie par voirie, ça vient d'être terminé pour voir réellement, essayer de reconsidérer et revoir exactement où sont les priorités. J'ai pour ma part pu aller voir le dimanche, quand j'ai rien à faire, quelques voiries, et c'est vrai qu'il y a parfois des degrés d'urgence qui peuvent être interprétés différemment quand on se trouve sur la dite voirie. Je ne parle pas pour tel ou tel, je stigmatise personne, mais ça mérite quand même d'avoir, rien ne nous empêche de réétudier un tout petit peu, de réajuster le PPI, notamment sur cette année où avec la LGV il nous faut marquer une petite pause, qu'on reprendra ce programme là sur l'année prochaine. Mais c'est des choses, encore une fois, je m'étonne un petit peu des remarques, mais bon, je les attendais. Je m'étonne de ces remarques-là, ici, en conseil, sachant qu'on a des réunions et que ces réunions-là, elles sont là pour ça. Mais j'entends ce que vous dites. Je vois un micro allumé. D'autres... Pardon. Pierre Mallet. Joël Bonnet, pardon.
Je suis un peu moins costaud. Non, simplement, je voudrais apporter une précision de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté concernant ce qui vient d'être évoqué concernant la voirie. Je tiens à rappeler que Mont-de-Marsan Agglomération a la compétence politique de la ville et qu'à ce titre-là, elle doit mettre en œuvre les politiques contractuelles européennes, nationales ou régionales, et elle est un cofinanceur lorsque projet se situe dans le périmètre politique de la ville, et qu'à ce titre-là, et par le biais de l'organisme intermédiaire qui a été créé, elle doit intervenir en tant que cofinanceur sur un dossier urbain politique de la ville, ce qui est le cas dans sur le quartier de la Moustaille, puisqu'on lançait un programme de réhabilitation et de reconstruction du COSEC, et qu'à ce titre, justement, eu égard aux contraintes budgétaires qui existent sur la commune et eu égard à l'obligation de Mont-de-Marsan Agglomération qui existe de par sa compétence politique de la ville, et afin d'essayer d'aller chercher notamment des fonds européens, des fonds régionaux, la partie voirie Saint-Pierre-du-Mont a été différé de façon à intervenir au titre du fonds de concours qu'il peut y avoir par ce biais-là. Donc, en fin de compte, la voirie diminue de 500 000 euros et non pas de 1 million. J'essaie de vous expliquer pourquoi. C'est particulier par rapport à la compétence politique de la ville. Et donc, justement, pour ne pas impacter le budget communautaire, Là, d'un commun accord, nous avons choisi de différer une partie de la voirie sur Saint-Pierre-du-Mont pour pouvoir intervenir au titre des fonds européens. Merci.
Merci, Joël. Par rapport à la culture, peut-être Delphine Salambier.
Oui. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste apporter une petite précision concernant le festival à tout cœur de Benquet. Effectivement, il y a eu une demande d'économie sur un budget total de 42 000 euros. C'est une économie qui sera faite de 5 000 euros. Ceci dit, je tiens à bien préciser que la journée communautaire des enfants, qui est un budget de 10 000 euros, n'est en aucun cas impactée par les réductions budgétaires. C'est-à-dire que cette journée, on l'a défendue âprement. C'est une journée qui concerne les enfants de l'agglo. Cette journée-là, qui est effectivement offert aux enfants de l'agglo sera maintenue. Elle est déjà prête et peut-être déjà commencée à être travaillée et elle fera encore partie l'année prochaine du festival à tout cœur.
Auquel je vous invite tous à assister, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le budget avant qu'on passe au vol ? Pierre Mallet, peut-être ?
Moi, il n'y a pas d'adulte à la journée communautaire, c'est pour les enfants.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le budget ou d'autres questions ? N'hésitez pas. Donc, on va passer au vote. Donc là, on est sur la délibération numéro 15. Hein, c'est sur le budget principal. Donc, je vous propose de passer au vote à main levée. Qui est contre le budget 2017 tel qu'il vous a été présenté ? Donc, on a ici 5, j'imagine, puisque c'est toujours les mêmes. Donc, 5 voix contre. Qui s'abstient ? Pas d'abstention. Je vous remercie. C'est voté à la majorité. On est sur la délibération numéro 16. Hervé Bayard.
Très bien. Donc ça concerne l'enveloppe, la dotation de solidarité communautaire. Non, la 16. Non. Non, il faut faire voter les budgets, c'est passé
non,
déjà.
Non, c'est pas toi. Tu prends jamais la parole quand il faut faire.
Qu'est-ce que tu as voté présenté. Les budgets annexes.
Alors, on va voter budget par budget, excusez-moi. On va y arriver. Donc, sur le cabinet sera bientôt opérationnel, monsieur Mallet. Vous pourrez même vous appuyer dessus. Et il vous coûtera moins cher qu'avant quand vous étiez aux affaires. Budget primitif, budget annexe des logements. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, budget primitif, budget transport. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Budget primitif annexe des zones d'activité. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc il y a bien le budget principal maintenant. Et le budget principal, il est voté. Bon, c'est bon. Donc délibération 19, là on est sur l'enveloppe de dotation solidarité, DSC Solidarité Communautaire 2018, avec une réduction. Hervé Bayard.
Donc, comme nous avons adopté une diminution de la dotation de solidarité communautaire de 150 000 euros, il s'agit de définir des nouveaux montants attribués à chaque commune. Donc, vous avez un tableau qui reprend l'ensemble de ces montants qui sont calculés en fonction de la population, du potentiel fiscal, du revenu par habitant, la population territoriale prioritaire. Ça concerne les villes qui ont des quartiers prioritaires et puis également en fonction de l'effort fiscal, tous ces critères étant associés à des pourcentages. Voilà ce qu'il en est.
Est-ce qu'il y a des remarques ou des prises de parole sur cette délibération concernant la DSC ? Donc pas de remarques. Je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. La délibération suivante, on reprend le fil. Donc c'est la convention. Je vais laisser la parole à Joël Bonnet et avec une intervention aussi peut-être de Bertrand Tortig, il y a une partie commerce et artisanat. Donc là, il s'agit de la délibération numéro 20. C'est la convention d'objectifs et de moyens 2018 et 2020 entre l'Office du tourisme, du commerce et de l'artisanat de Mont-de-Marsan, agglomération, et l'agglomération. Joël Bonnet.
Merci, Monsieur le Président. Donc, cette délibération fait suite à notre comité directeur du 29 novembre 2017 concernant les objectifs et de moyens déterminés pour la période 2018 à 2020. Je vous rappelle que nous avions une convention qui s'arrête au 31 décembre 2017, qui non seulement fixe les modalités de subvention octroyées par Mont-de-Marsan Agglomération auprès de l'OTCA, mais également des actions à mener. Nous avions déjà évoqué cette partie-là lors de notre dernier conseil communautaire, puisque nous avions, à ce titre, vu le rapport d'activité sur l'année 2016. Donc là, comme ça a été évoqué tout à l'heure dans le cadre du budget, nous avons principalement une baisse de la subvention qui est sur la période de 3 ans diminue de 75 000 euros, c'est-à-dire 25 ans sur l'exercice 2018, 25 sur l'exercice 2019 et 25 sur l'exercice 2020 sur la partie tourisme. La partie commerce n'étant pas affectée, et je laisserai la parole à Bertrand Tortic bien évidemment tout à l'heure. Dans les actions à mener, deux trois points à soulever, c'est que nous avons malgré tout un office du tourisme qui est très fréquenté, puisqu'à ce jour, il y a à peu près 46 000 personnes par an qui viennent à l'accueil de l'Office du tourisme, qu'il y a une formation qui a été qui est permanente, et notamment dans le cadre de la... Alors, la terminologie, c'est MONA, ce qui veut dire Maison des Offices du Tourisme de la Nouvelle Région. Ça fait partie des appels à projets auxquels l'Office du Tourisme a répondu, notamment dans le cadre du dispositif des Landes intérieures, avec les offices du tourisme voisins du Pays grenadois et de Chalosse-Tursan. Avec dans les objectifs nouveaux, et bien de par l'arrivée de la Scandibérique, l'accueil vélo, obtenir la labellisation accueil vélo, mais également le tourisme et handicap. Voilà les objectifs qui ont été fixés, sachant bien évidemment que la partie numérique est importante. Nous l'avions souligné lors du dernier rapport d'activité. Nous avons un compte Facebook qui est très très largement consulté, mais toute cette partie numérique demandera encore à être développée, y compris dans l'aide qui serait portée notamment dans le cadre de l'OTCA aux commerçants, pour éviter des décalages qui pourraient exister entre les attentes des consommateurs, des clients et les prérogatives existant au niveau des commerçants notamment. Mais je peux laisser la parole à Bertrand Tortic pour aller plus avant là-dessus.
Oui, une petite précision. Point de vue budget, donc vous avez vu que la partie commerciale pure, il y avait un budget de 63 000 euros. Là-dessus est compté 13 000 euros la partie salaire de Renaud Darquier qui s'occupe de la partie commerciale tout en s'occupant du Déveco. Il faut savoir que ce budget-là va sûrement évoluer, du moins sur les propositions que je ferai au VP Finance en fonction des préconisations que va nous donner notre société conseil en début d'année, puisque donc l'étude qui a été réalisée depuis le mois de septembre arrive à sa fin, et nous allons avoir courant janvier, début février, donc ses conclusions, et c'est vrai que nous aurons des actions à court, moyen et long terme à faire qui nécessiteront un investissement, et je demanderai que cette enveloppe de 50-60 000 euros puisse augmenter dans la mesure du possible. Donc cette année, ça va être surtout un travail sur le numérique, car je crois que le gros problème pour les commerçants montois et pour tous les commerçants de villes moyennes, de commerçants français, c'est l'impact du e-commerce. Actuellement en France, entre 40 à 50% des achats se font par Internet, par le e-commerce. Donc nous allons aider, puisque nous avons des outils, nous sommes bien avancés, comme l'a dit Joël, en termes numériques. Nous sommes en train d'étudier une convention avec une société, avec une start-up pour pouvoir informatiser et former ceux qui le désirent, les commerçants, de façon qu'ils puissent s'adapter et rentrer un petit peu en concurrence locale à ce e-commerce.
Merci Joël Bonnet et Bertrand Tortigue. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette convention d'objectifs ? Pas de remarques particulières. Donc je vous propose de la soumettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. La délibération suivante concerne la direction de l'éducation. Je vais laisser la parole à Jean-Marie Esquier. Il s'agit de la délibération numéro 21 et de la participation au financement de l'école privée sous contrat d'association Jean Cassaigne. Jean-Marie Esquier.
Merci, Monsieur le Président. Le Code de l'éducation, comme vous le savez, a pour objet de garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat, et met à charge des communes, en général, un forfait communal. Depuis 2004 et maintenant 2015, puisqu'on a pris la compétence, le PCI est substitué aux communes. Donc, nous avons réalisé à partir du compte administratif 2016 une étude sur le coût élève. Et ce coût élève s'élève à 477 euros. Donc, cette délibération a pour objet d'approuver ce montant pour alimenter la convention que nous avons depuis 3 ans avec l'OGEC de la Croix-Blanche. De Jean Cassaigne. Merci, Joël.
Merci Jean-Marie Esquier. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ? Renaud Laitet.
Une remarque. Lorsque ce dossier était venu l'an dernier à l'examen de cette assemblée, nous étions abstenus en vous indiquant que le montant qui avait été à l'époque retenu, à savoir 600 euros par élève, n'était pas déterminé d'une façon certaine sur des critères objectifs après une analyse sérieuse. Et je vois que nous avions raison de vous faire cette observation parce que si l'étude qui a été conduite cette année a permis de retenir ces 477 euros par élève, cette étude aurait dû être faite précédemment, parce que, en résumé, d'après les éléments que j'ai pu glaner, ça concernait 170 élèves en 2016 et 198 en 2017. Et donc, ça fait 368 élèves. Il y a un différentiel de 123 euros par élève. Et lorsqu'on parle d'économie, et c'est tout à fait normal, de la part de Monsieur Bayer, là, finalement, on a gaspillé, c'est le terme, 45 264 euros par, finalement, imprévoyance, puisqu'on avait voté, c'est ce que nous avions indiqué clairement, je vais voter, nous allons voter cette délibération, bien évidemment, dès lors que elle est assise sur un calcul qui a été fait sur des données sérieuses. Il y a eu une étude qui a été menée, qui a été confiée à une personne, c'est ce qui est indiqué dans la délibération. Il n'y a pas de souci. Mais on a voté 2 fois 600 euros, finalement, à la louche, sans savoir. C'était un montant qu'on avait arbitré comme ça. Et je trouve, si vous me permettez, que c'est pas très sérieux. Le travail qui a été fait là, en revanche, me paraît devoir retenir tout à fait notre intérêt. Et il n'y a aucun problème, puisque la loi l'impose, que nous votions évidemment cette délibération sur des données chiffrées qui nous sont aujourd'hui fournies.
Jean-Marie Esquier.
Oui, Monsieur Laitet, je savais que vous étiez un homme de gauche, mais je trouve que vous avez un... Je trouve que vous avez un ton marxiste dans cette affaire.
Oh non, monsieur Esquier, c'est pas...
Si. Permettez-moi de vous
expliquer. C'est pas digne de vous, parce que je ne suis pas contre... Non. Attendez. Je poursuis, vous me répondez. Je ne suis absolument pas contre une participation qui nous est proposée, dans la mesure ou c'est l'application stricte de la loi. Donc il n'y a aucune difficulté pour moi à voter ces délibérations. Mais encore faut-il, il ne faut pas tourner ça en dérision. Vous avez fait voter deux fois cette Assemblée sur la base d'un montant de 600 euros par élève, comme ça, parce que sans aucune donnée bien précise. Aujourd'hui, on constate que les données qui nous sont fournies, ben, c'est 477 euros par élève, et ça fait un différentiel sur deux ans de 45 000 euros, que vous le vouliez ou pas.
Si vous permettez, je vais quand même vous répondre sur le fond, hein, très sérieusement. 477 euros, comme je vous l'ai dit, c'est le résultat de l'exercice 2016. Comme vous le savez, 2016, c'est la première année pleine, sur laquelle nous avons exercé notre compétence. Premier point. Deuxième point, vous savez très bien que nous étions sur des conventions précaires le temps que l'on puisse déterminer le coût de fonctionnement réel. Or, ce coût, que je sache, il a été pris par comparaison, par terme de comparaison, notamment par rapport à la ville de Mont-de-Marsan. Moi, j'ai encore les délibérations de M. Labéry, en l'occurrence, qui était très généreux vis-à-vis de l'école. Si, non, mais moi, quand je suis attaqué...
Même disant que non, mais monsieur, là, attendez, monsieur, je viens, on va parler monsieur Lamarque.
Si vous permettez,
Tando,
je...
Non,
mais je vous donne, je vous dis que j'ai travaillé avec les délibérations et nous avons versé 35 euros de moins lorsque nous avons mis en place la première convention, 35 euros de moins que... On était à 600 euros au lieu de 635, qui était l'accord sur lequel on est parti. Je vous signale quand même que on a les termes de comparaison. On a pris des termes de comparaison sur le département des Landes. Nous n'étions pas les seuls à verser 600 euros. Donc il n'y a pas de quoi à s'offusquer. Je veux dire que quelque part, c'est pas un chiffre qui avait été pris comme ça au gré d'une humeur du moment. Pas du tout. Donc c'est pour ça que je dis que vous avez un côté marxiste, parce que vous refaites l'histoire. Et ça me gêne.
Pas sûr que vous ayez une connaissance du marxisme très développée.
Un peu, quand j'avais 18 ans.
Merci. Vous nous signalerez, monsieur Leitet, quelles sont les références en termes de date qui vous arrangent dans l'argumentation pour qu'on s'adapte.
Sauf qu'il ne faut pas remonter systématiquement. Je crois qu'il y a une période plus récente. Ça fait 10 ans que vous êtes là. Quand je parle de développement économique, vous me répondez toujours. Je vous dis aujourd'hui, on a les moyens de se développer économiquement puisqu'on est désenclavé. Il n'y a aucun profit qui en est tiré. Vous me dites, c'est avant. Mais avant, il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Donc il faut aussi faire en termes de référence d'aujourd'hui. Merci.
Alors, mais, monsieur Leitet, je vous remercie parce que vous avez annoncé que vous voterez cette mesure. C'est une marque de confiance et je vois que vous avez lu les documents qui vous ont été transmis dans le cadre des travaux que nous avons réalisés. Donc, je vous en remercie. C'est un chiffre sincère à l'heure qu'il est.
Allez, je vous propose de passer au vote sur cette délibération, à moins qu'il y ait d'autres questions. Pardon.
Alors juste pour vous dire que je ne prendrai pas part à ce vote puisque je suis enseignante dans cet établissement. Et je vous rassure, l'argent est très bien utilisé en faveur des enfants jusqu'à présent. Donc il n'y a pas eu de profit. Voilà.
Je vous remercie. Je vous propose de passer au vote. Nous sommes donc sur la délibération qui est la numéro 21. On va y arriver. Donc qui participation donc au financement de l'école privée Jean Cassaigne, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Délibération numéro 22, toujours Jean-Marie Esquier.
Alors, ce coût de 477 euros est un coût de référence, puisque dans l'article que je vous ai cité tout à l'heure du Code de l'éducation, 442.5.1, il est prévu également qu'il soit mis à charge des communes qui ne scolarisent pas leurs enfants une participation financière. Donc nous utiliserons ces mêmes références. Il vous est donc proposé le coût de 477 euros à facturer aux communes qui scolarisent leurs enfants sur la communauté d'agglomération. Commune hors aglo. Je vous rassure, messieurs les maires. Il n'y aura pas de...
compenser la diminution de...
Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ou des remarques particulières, maintenant que tu nous as rassurés?
Oui.
Donc je vous propose de la passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on arrive, a priori, si je ne me suis pas mélangé les crayons, sur la dernière délibération, la numéro 23. Je vais passer la parole à Delphine Salambier. Je rappelle, avant que vous pliez vos affaires, que... On vous demande de nous accorder 5 petites minutes tout à l'heure pour un petit montage de communication sur les prochains vœux. Donc là, il s'agit du recours au mécénat pour participer au financement de la saison culturelle du Théâtre de Gascogne. Je laisse la parole à Delphine Salambier.
Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Donc le mécénat, effectivement, est défini comme une libéralité et c'est un don. Il s'agit d'un soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activité qui présente un intérêt général. Le mécénat implique le partage d'une culture commune sur le territoire et un partage de valeurs et de notoriété institutionnelle pour le mécène et pour Mont-de-Marsan Agglomération. Alors ce don peut prendre 3 formes. Ça peut être un mécénat financier, en nature ou en compétences. Et depuis la loi Aliagon, le mécénat connaît une croissance exponentielle en France. Et dans ce contexte, et considérant les contraintes budgétaires et de plus en plus prégnantes auxquelles les collectivités doivent faire face, Mont-de-Marsan Agglomération souhaite associer les acteurs privés au projet culturel de la collectivité à travers l'acte de don. L'agglomération dégagera ainsi des ressources nouvelles et affirmera sa proximité avec les forces vives économiques du territoire et les administrés. La démarche de mécénat permet ainsi d'impliquer les particuliers et les acteurs économiques dans les projets de territoire. À ce titre, et forte de la démarche de mécénat développée, Mont-de-Marsan Agglomération, au travers du Théâtre de Gascogne, souhaite solliciter des dons auprès de mécènes afin de contribuer à financer les activités du Théâtre de Gascogne, telles que la diffusion de spectacles, l'aide à la création artistique et l'organisation d'événements culturels. Il est demandé d'approuver donc la recherche de financement extérieur par la sollicitation de mécènes dans le cadre de la saison culturelle et d'événements artistiques et culturels particuliers et autorise Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des entreprises et des particuliers dans ce cadre.
Merci Delphine Salambier. Donc vous l'avez compris, c'est se doter d'un outil... qui permettrait de capter ces fonds-là, qui permettrait parfois aussi de compenser le denier public. Et bien entendu, je vous encourage tous et toutes, mais je sais que certains d'entre vous ont déjà démarré dans leur commune aussi, à aller chercher démarcher du mécénat. Là, il s'agit d'attirer du mécénat sur notre saison culturelle. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette délibération, la dernière? Pas de questions. Donc je vous propose de la passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Juste avant de lever la séance, je vais donner la parole. 2 petites minutes, on reste dans la culture, à Chantal Davidson pour vous parler d'une œuvre qui est d'actualité.
Merci, Monsieur le Président. Bon, alors j'ai entre les mains un livre, un ouvrage, dont le titre est « 8 siècles d'histoire en Marsan ». C'est l'histoire de la vicomté du Marsan, et qui a été écrit par une... universitaire, Jeanne-Marie Fritz, qui a un doctorat en histoire médiévale. Mais je ne suis pas là pour vous faire l'article de cet ouvrage, hein. Je ne suis pas là pour vous vendre l'ouvrage. Simplement, Jeanne-Marie Fritz, l'auteur, voudrait organiser une conférence à l'intention des élus de l'agglomération, puisque c'est donc le territoire du Marsan, date du Moyen-Âge, à ses origines au Moyen-Âge, et que ce serait intéressant que les élus de l'agglomération de Mont-de-Marsan, dont les 18 communes, sachent exactement quelles sont les origines du territoire qu'ils gèrent actuellement. Voilà, alors c'était simplement pour vous dire que cette conférence pourrait avoir lieu plutôt en février, puisqu'en janvier, tous les week-ends sont pris par les cérémonies des vœux. Voilà, alors simplement, c'est moi qui suis chargée de trouver et de réserver une salle. Alors je voudrais savoir si je dois réserver le pôle culturel du Marsan ou la cabine téléphonique qui est à côté de chez moi. C'est pour ça que je voudrais simplement avoir une petite idée, faire un petit sondage sur le nombre de personnes qui pourraient assister à cette conférence, de façon à ne pas faire venir cette personne pour simplement peu d'auditeurs. Voilà. Et donc je vous encourage à venir assister à cette conférence.
Merci Chantal. Donc juste, on va pas faire le sondage là. On va vous envoyer une petite communication et puis on planifiera en invitant les vœux. Mais voilà, je voulais que cette information passe. Merci Chantal. Je vous remercie. Donc, nous avons la communication qui est là. Donc, si vous pouvez vous prêter à ce petit jeu tout simple, il s'agit simplement de passer des vœux plutôt numériques. On est à l'heure du numérique, donc vous les avez à votre disposition. La séance est levée. Je vous remercie. Puis vous avez ensuite le verre de l'amitié.